McCarthy, François Fillon, la
Duchesse Emmanuel Macron, 39-year-old former candidate
Jean-Luc Mélenchon. Ya saben que Marine Le Pen va pasar a la segunda vuelta.
Benoît Hamon.
Michaël Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, on poursuit notre série La campagne présidentielle vue d'ailleurs avec deux destinations ce soir, le Canada et d'abord Michaël, Israël.
Et plus précisément Tel Aviv, avec cette double question, comment les Israéliens perçoivent-ils cette élection et comment les Français installés en Israël suivent eux aussi cette campagne? Car vous le savez, ils sont très nombreux à avoir choisi de vivre ici, près de 80 000 ressortissants français, pour la plupart de confession juive, qui sont officiellement enregistrés auprès du consulat, des Français qui, lorsqu'ils votent, votent en grande majorité à droite. Ainsi en 2012, où le candidat Nicolas Sarkozy avait recueilli 80% des voix au premier tour de la présidentielle. Alors qu'en sera-t-il cette année? Bonsoir Marie Semelin, en direct de Tel Aviv.
Bonsoir Michael.
Et déjà une première indication, Marie, parmi les dizaines de Français que vous avez rencontrés, eh bien presque tous vous ont dit leur confusion, voire leur exaspération après l'affaire Fillon, ça dure, comme ce couple filloniste de la première heure, mais qui aujourd'hui ne sait plus pour qui voter.
Oui, Laetitia et Olivier suivent de près les élections, même s'ils vivent à Tel Aviv depuis 5 ans. Et malgré cette décision, ils se fichent un peu de ce que disent les candidats français sur Israël. Pour autant, ils ne savent toujours pas pour qui voter. Et au square, avec leurs enfants à côté, ils débattent encore. Le sentiment néanmoins qui domine quand ils parlent de cette campagne, c'est l'exaspération.
Une blague, un canular, un camouflet. Mais franchement, depuis qu'on est là, on suit parce que c'est captivant au niveau de l'ambiance. Mais il n'y a aucun candidat valable. Ça m'énerve quand même pas mal. Ça m'énerve pour les Français, moi je suis très bien ici.
Mais ce qui inquiète ce couple, c'est Marine Le Pen. Même si elle est toujours officiellement persona non grata dans l'État hébreu, tout comme les autres membres du Front National, ils ont l'impression qu'elle séduit plus qu'avant les Français d'Israël.
Je pense que les mouches ont changé d'âne. Ce qu'avant c'était les Juifs qui embêtaient le Front National, que maintenant aujourd'hui c'est les musulmans. Mais il ne faut pas oublier que c'était les Juifs avant et que demain ça sera encore les Juifs. Cette dédiabolisation, c'est du cinéma. Elle est autant antisémite que anti-musulmane.
Je comprends pas qu'il y ait des gens qui mesurent pas la gravité et qui puissent être juifs et voter pour elle. Je trouve ça genre d'une bêtise.
Voilà, le vote frontiste, on l'entend, qui anime donc les conversations de ces Français de Tel Aviv, avec des positions évidemment très tranchées, Marie. Et position qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les Israéliens eux-mêmes.
Oui, et une fois qu'on lance Ehud sur le sujet, il ne tarit pas sur les candidats. Cet Israélien de 71 ans a ses préférés et ceux qu'il aime un peu moins, il suit comme ses amis les développements de la campagne et ce qu'il n'a pas pu digérer. C'est la phrase de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv qui a eu ici beaucoup d'écho.
Récemment, elle a dit que la France n'était pas responsable de l'exécution de 13 000 juifs, que c'était seulement les Allemands. Mais on sait bien que c'est la police française qui a fait le travail pour eux. Son père, monsieur, quel est son nom déjà? Jean-Marie, est un antisémite certifié. Elle n'est pas bonne pour la France, disons-le comme ça. Si j'étais français, je ne voterais jamais pour elle. Les extrêmes des deux côtés, ça n'est bon pour personne.
Français voter comme aux Pays-Bas, dit-il. Une autre élection qu'il a suivie avec attention en mars et où, contre ce que semblaient indiquer les sondages, l'extrême droite n'est pas sortie gagnante.
Et l'autre thématique qui domine ici, chez vous, c'est évidemment celle de la sécurité et cette question, comment le prochain président français luttera-t-il contre le terrorisme?
Et ça commence par un constat que fait Itai, un jeune danseur. Pour lui, la violence du conflit israélo-palestinien est la même que celle qui frappe la France et l'Europe.
Je pense que récemment, la France a réalisé ce que nous vivons ici en Israël, par la manière violente malheureusement. Mais maintenant, toute l'Europe comprend la situation où nous sommes. C'est dans ces conditions que je vis depuis que je suis enfant. Et j'espère que maintenant, on pourra s'unir contre le terrorisme et partager le même point de vue.
David, lui, travaille sur l'un des marchés de Tel Aviv. Il se définit au centre et pour lui, la majorité de nos candidats n'a pas la stature pour mettre en place la politique dont la France a besoin. Il les trouve trop laxistes, notamment envers l'intégrisme musulman.
Si dans les mosquées, ils crient « Allahu Akbar », allez tuer des gens, alors dehors, dehors, hors de France. Ceux qui s'accordent avec le pays, bienvenue. Ceux qui ne veulent pas s'adapter au pays, avec les règles du pays, dehors. Si la France veut être la France encore dans 10 ans, dans 20 ans, rester la France et la grande nation qu'elle est, il faut agir.
Il espère que le prochain président viendra en Israël pour prendre quelques conseils sur la prévention du terrorisme. Pour lui, une référence en la matière.
Marie Semelin, correspondante de France Inter à Tel Aviv. Merci Marie.
Et avant de partir pour le Canada, Michael, petit détour par la presse étrangère du jour, à commencer par la presse espagnole.
Oui, avec El Mundo qui se projette déjà au second tour, jugeant réaliste la possibilité d'un duel final Le Pen-Mélenchon. Autrement dit, l'impensé, l'impensable, le fascisme et le communisme qui s'affrontent de nouveau en Europe pour la première fois depuis 1945, affirme le quotidien. Il y a encore quelques semaines, le système électoral français rassurait les Européens raisonnables. Même si l'on craignait que Le Pen soit présente au second tour, il paraissait évident qu'elle serait alors vaincue par Macron ou Fillon. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? S'interroge El Mundo, qui poursuit en ces termes. Après le cauchemar de cette victoire à la Pyrrhus, on voit déjà se profiler les législatives de juin. Et là, ni les fascistes, ni les communistes n'obtiendront facilement une majorité. La décadence est inexorable. La France aborde une dimension politique inconnue entre xénophobie et chavisme. Dans une telle dimension, le national-populisme fait de la démocratie un raffinement superflu. Fin de citation. Ça cogne. Hein. Et c'est aussi le candidat de la France insoumise qui retient l'attention de la presse allemande, notamment de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui se souvient que Jean-Luc Mélenchon n'a guère de sympathie pour l'Allemagne. Dans cette France qui ne doit pas se soumettre, il y a une forte dose d'anti-germanisme, pointe le quotidien conservateur, qui rappelle au passage que Jean-Luc Mélenchon, je cite, dont les modèles sont Fidel Castro et Hugo Chavez, dont le programme économique est d'inspiration communiste, est aussi l'auteur d'un livre au titre provocateur, Le hareng de Bismarck, le poison allemand. Et alors que les sondages annoncent une forte remontée du candidat de la France insoumise, le quotidien allemand s'inquiète lui aussi d'un possible duel le 7 mai avec Marine Le Pen. Car explique-t-il, l'ancien trotskiste a réussi à apparaître comme le seul candidat de gauche à pouvoir être pris au sérieux. Il pourrait donc franchir la barre du premier tour, surtout s'il se concentre sur ses thèmes de prédilection, la critique de l'UE et tout particulièrement de la chancelière Angela Merkel, des critiques devenues, je cite, « des slogans ». Slogan qui lui valent un succès assuré, estime le journal. Ni Mélenchon, ni Le Pen, au contraire pour le New Statesman, qui s'intéresse lui au candidat Les Républicains, candidat certes discrédité mais pas coulé. François Fillon est toujours dans la course malgré tout, et s'étonne l'hebdomadaire britannique, qui estime que ses soutiens se montrent remarquablement résilients, tellement qu'il pourrait finalement l'emporter contre vents et marées. Enfin, plusieurs grands quotidiens, Nicolas, se posent la même question, résumée ainsi par la Vanguardia. La dernière ligne droite pourrait-elle être fatale à Emmanuel Macron, le favori des sondages jusqu'à présent ? Le quotidien espagnol, très ironique, mordant, compare les meetings du candidat d'En Marche à une discothèque des plus classiques, avec une communion digne d'un stade de football, sous le charme d'un prédicateur évangéliste du Midwest, et de s'interroger... Comment la France, nation la plus politisée d'Europe, peut-elle pencher en faveur d'un pur produit marketing issu de l'establishment ? Ce serait du jamais vu dans l'histoire de ce pays. La Süddeutsche Zeitung, enfin, affiche-t-elle une toute autre tonalité. Le quotidien allemand affirme que Berlin reste en droit d'espérer une victoire de Macron, car des quatre candidats en tête, il est le seul dont l'engagement européen ne souffre aucune condition et qui mise sur une meilleure coopération avec l'Allemagne.
Quelle revue de presse, Michael Thébault. Direction donc maintenant le Canada, Montréal, où la présidentielle française ne fait pas franchement la une de la presse.
Ah non, tous nos confrères en parlent, évidemment, mais beaucoup moins, c'est vrai, que de l'actualité américaine et des dernières décisions de Donald Trump. Et comme on le voit un peu partout dans la presse internationale, eh ben c'est surtout Marine Le Pen qui fait couler l'encre aujourd'hui, davantage en tout cas qu'Emmanuel Macron, même si le candidat d'En Marche avait eu de nombreux papiers et reportages il y a quelques semaines, où on soulignait notamment ses ressemblances avec le jeune Premier ministre canadien Justin Trudeau. Mais à 5 jours du premier tour, c'est donc la tentation du vote frontiste qui retient l'attention, y compris dans la rue, comme l'a constaté notre confrère québécois David Savoie, qui s'est rendu hier sur l'un des marchés les plus populaires de Montréal.
Il y a foule au marché Jean Talon durant le congé pascal. Ici, le nom Le Pen évoque bien quelque chose, mais autrement, l'élection française retient peu ou pas l'attention. Faute de temps, dit Roxane.
Non, pas du tout.
Pourquoi?
Ben, parce que j'ai pas le temps. On travaille tout le temps, donc j'ai pas vraiment le temps de suivre l'actualité.
Mais aussi carrément d'intérêt.
Parce qu'il y a tellement de candidats, puis c'est un peu loin aussi. On est déjà assez préoccupés par ce qui se passe aux États-Unis, ça, en plus... suivre ce mouvement-là.
La menace de l'extrême droite est réelle pour Nick, un Britannique installé à Montréal, qui voudrait bien avoir plus de temps pour suivre l'actualité.
Je pense que tout le monde avait un choc avec l'élection de Trump et même le Brexit. Qu'est-ce qui se passait en Angleterre? C'était comme une vague conservatrice. Et je pense, avec ce qui se passe dans les Pays-Bas, c'est encourageant. Et, j'ai l'espoir pour la France que ça va pas se la vague ne va pas continuer. Et, peut-être que je peux être choqué. J'étais surpris avec l'élection de Trump en novembre.
Tout ça malgré une couverture médiatique bien présente, ainsi que des liens commerciaux et culturels qui unissent la France et le Canada. Il est vrai que ce système à deux tours et cette dizaine de candidats sont des éléments éloignés de la culture politique canadienne, où le gouvernement est formé par le parti qui remporte la majorité après un seul vote. Mais si le scrutin dans l'Hexagone n'intéresse pas trop aux clients et commerçants du marché montréalais, des élites politiques et économiques de Toronto, la capitale financière du pays, s'en inquiètent. La vague de populisme avec le Brexit et l'élection de Trump fait craindre le pire pour l'Union européenne. Plus à l'ouest, dans les prairies et au-delà des Rocheuses, cette élection française et les possibles conséquences européennes attisent peu la curiosité pour le moment. C'est du moins l'avis de Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université d'Alberta.
D'abord, il y a une différence entre l'est et l'ouest du pays. Il est clair qu'au Québec ou même en Ontario, on a quand même, une curiosité qui est un peu plus grande à l'égard de ce qui se passe en Europe, à l'égard de ce qui se passe en France, évidemment, aussi du côté québécois, avec tous les liens qu'il y a. Du côté de l'ouest canadien, ben c'est surtout du côté pacifique qu'on regarde. Du côté des États-Unis, mais du côté aussi de... en raison des liens économiques qu'on veut développer avec la région du Pacifique, on commence à avoir un intérêt qui est un petit peu plus grand à l'égard de ce qui se passe en direction de l'ouest de la planète.
Chose certaine, il apparaît peu probable que les Canadiens seront nombreux le 23 avril à avoir les yeux rivés sur un téléviseur quand seront dévoilés les résultats du premier tour. Peut-être les choses seront différentes le 7 mai.
Voilà, reportage à Montréal signé David Savoie. Et notez que ce soir, toute la presse québécoise dans sa version en ligne revient évidemment sur cette tentative d'attentat déjouée ce matin à Marseille. Et du quotidien Le Soleil au Journal de Montréal, en passant par Le Devoir, tous se demandent quel candidat à la présidentielle pourrait être, entre guillemets, avantagé par la menace terroriste. À demain, Nicolas.
À demain, Michael.